patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui avec Chantal Bruel que je salue tout d'abord. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, bonjour auditeurs fidèles de Radio Présence.
Eh bien, nous en sommes à la deuxième partie du poème « Loi blanche », je le rappelle, tiré de l'ouvrage de Gilles Lade, « Conte des mille collines », paru aux éditions Tertium. Chantal, c'est à vous pour cette seconde partie donc.
Un matin d'octobre, alors que les érables en venaient à l'oranger le plus vif, monsieur et madame Morimont étaient descendus d'Espédaillac et s'étaient présentés dans un hameau voisin où un garçon d'une dizaine d'années, déjà orphelin de père, venait de voir décéder brusquement sa mère. Des voisins l'avaient provisoirement accueilli, mais monsieur et madame Morimont, qui connaissaient bien les défunts parents, avaient la ferme intention d'accueillir durablement l'enfant avec toute la légalité requise. Leur démarche visait, sans qu'ils se l'avouent pleinement, à les guérir du deuil d'un garçon, leur cadet, mort d'une fièvre foudroyante. Ils virent là un enfant au regard et aux cheveux clairs, point timide ni effronté, mais exprimant une attente légèrement teintée de crainte. Nulle rudesse en lui, ni fourberie, ni violence, mais une certaine force, une bonne foi qui avait résisté aux avanies du destin. Il suivit alors monsieur et madame Morimont dans leur voiture à cheval. Le cosse était immense, dénudé, cadastré de murets. Quelques bois et bosquets rompaient les amples ondulations du relief. Les maisons de pierre, souvent entourées de nombreux enfants, se détachaient sur le fond du paysage. Dès son arrivée, Gabriel fit la connaissance d'Octave, son aîné de 3 ou 4 ans. Il perçut en lui un être rude, fier de la ferme, de ses parents, mais pas entièrement fermé à l'échange. Les premières années de leur cohabitation se partagèrent entre l'école, les jeux avec les enfants du voisinage et diverses occupations à la ferme. Octave ne se posait pas en rival scolaire. Gabriel, qui n'entrait jamais en concurrence avec lui, s'était fait une place dans la communauté des enfants de son âge. Le certificat d'études de Gabriel coïncidait avec le début de la Première Guerre mondiale. Il se trouva qu'il était exceptionnellement brillant et que l'instituteur plaidait pour des études. Le père avait été mobilisé, ce qui éloignait une décision sur ce point. C'est alors que les relations entre les deux garçons empirèrent. Leur force était devenue agissante et il fallait souvent prendre des décisions auxquelles participait leur mère. L'attention était vive, mais ne bascula jamais dans la violence physique. Cependant, Octave marquait une aversion de plus en plus vive pour Gabriel. Il l'écartait et avait trouvé un moyen de se débarrasser de lui. Ainsi, il l'assignait le plus souvent possible à résidence dans une caselle qui se trouvait tout en haut du vaste champ devenu parcours à moutons par suite du manque de main-d'œuvre. Toute la nature du cosse se trouvait résumée dans la perspective. Champs, murets, landes, bois, chemins, granges, hameaux. Ces jours-là, Gabriel amenait les brebis et réalisait de menus travaux, comme la réfection de murets, restauration de caselles, entretien des sous-bois. Quelle que soit son amertume, il s'acquittait de sa tâche avec une sagacité et un savoir-faire qui n'échappaient ni à Octave ni à sa mère. Souvent d'autres le rejoignaient afin d'échapper un peu aux pénibles contraintes du monde des adultes. Non loin de là, dans une autre caselle, vivait Zouil, moitié ermite, moitié paria. Il avait exercé plusieurs métiers avec talent et justesse, mais son refus des accommodements l'avait progressivement amené là. Il avait lu beaucoup retenu de ses multiples rencontres, si bien qu'il éclairait Gabriel sur la Bible, sur l'histoire, sur les grands hommes, les zones étranges du monde et de la vie. Alors, Gabriel admirait cette capacité à demeurer le marginal et l'étranger, à vivre et à survivre dans un univers différent de celui des autres. Le temps avait une autre valeur qu'aujourd'hui. Une journée était à la fois plus courte et plus longue. Plus courte parce qu'elle ne connaissait pas la vacuité ni le désœuvrement. Chaque action avait son poids. L'attention constante au troupeau, les soins aux bêtes, la coupe du feuillage qui servirait de fourrage l'hiver, le souci des clôtures et des lisières. Des actions étaient réalisées sans lassitude ni sentiment d'inutilité. Il y avait comme un grand sens à tout cela. Mais les journées étaient plus longues parce qu'elles allaient de la nuit à la nuit sans véritable interruption. L'homme rompu à l'ouvrage modulait sa force de l'aube au crépuscule, avec les seules pauses des repas et de la sieste, sans jamais se départir d'une étrange vigilance. Toujours à la tâche, il assumait, endossait l'espace auquel il était assigné et se sentait entièrement lié au bétail, qui était un peu sa chair. Gabriel, jeune encore, et bien que mal aimé d'Octave, ne nourrissait pas de révolte. Il découvrait un travail dans lequel il n'était pas né, et il en subissait l'ancestrale empreinte. Puis le père rentra de guerre. Son âge lui avait évité les épreuves du front, et il reprit rapidement l'ascendant sur les siens. Octave perdit de son arrogance et allégea le quotidien de Gabriel. Mais le père scella son destin en refusant l'éventualité d'études. Il vit les livres, les journaux, les revues que Gabriel avait patiemment réunis. Il ne les écartait pas, mais fit clairement comprendre qu'il s'agissait d'accessoires inutiles, voire nuisibles au travail. S'il ne les confisquait pas, il effaçait leur suite logique, c'est-à-dire les études et l'ouverture sur un ailleurs. Gabriel vit se refermer toute une perspective studieuse de bibliothèque, de classe et de professeur, l'horizon de la ville aussi, comme on voit les lointains se plomber sous la grande chaleur. Les 20 ans de Gabriel approchaient. Ils passèrent, comme sa récente jeunesse, dans le même climat clandestin et hypocrite. Ce que furent ces années-là pour lui, nul ne le sait vraiment. Son temps se déroulait entre les solitudes du Cos et le village, les abris nombreux et subtilement variés de ses chères caselles et la famille d'Octave, dont il ne se sentait pas partie prenante. Il ne parvenait pas à effacer de son esprit ni de celui des autres l'impression qu'il était là, à son corps défendant. Il était l'homme des bois, toujours digne, et l'étrange fils d'une famille par ailleurs semblable à bien d'autres. On le vit accompagné de jeunes filles, de jolies femmes même, à l'occasion de fêtes votives ou de foires. Le secret s'étendait sur sa vie la plus personnelle. La nuit et la solitude apportaient leur protection et leur mystère. L'on avait l'idée qu'il rencontrerait toujours un obstacle à une vie dite « normale ». éloigné par ailleurs et à bien des égards de ses souhaits profonds. Mais la trace qu'il laissait de son métier était belle. Docile troupeau de brebis, qui prenaient plaisir à vivre auprès de leur maître et berger, beau muret rafraîchi de sa main sûre et sensible, lande essartée pour laisser dominer l'herbe sans exclure arbustes, arbrisseaux et églantiers. Il avait le souci d'élargir les grands espaces d'herbes blondes, des combes aux crêtes, sur fond de bois roussi par l'été. Alors Gabriel continuait de lire divers ouvrages. L'idée que l'on avait de lui était composite et évanescente, puisqu'il n'adoptait véritablement les codes d'aucun milieu social. D'autre part, il devisait avec le même plaisir avec les habitants du Causse et avec les citadins rencontrés lors des foires ou des villégiatures estivales. Il n'avait aucun mal à soutenir les discussions les plus serrées, les plus argumentées, même s'il était un peu probable que personne un jour ne rassemblât ces épisodes pour dessiner sa silhouette intellectuelle et morale. À bien des égards, la personne de Gabriel restait imprécise, mais nul au village ne lui déniait l'honnêteté ni les qualités d'un berger émérite. Le plus cruel pour Gabriel était sans doute la désapprobation diffuse qu'il percevait de la part des siens. Le fossé se creusa de façon décisive le jour où Octave annonça son mariage. Ce nouveau foyer l'éloignerait de Gabriel, qui serait décidément davantage encore l'étranger. Il chercha un nouvel employeur, chez lui, qu'il serait maître de sa conduite. C'est ainsi qu'il choisit Yvon comme garant d'indépendance et de sérénité. Loi, revenons à elle, avait choisi un coin de verdure en contrebas de la maison d'Octave. Elle montait plusieurs fois par jour jusque sur le pas de la porte d'entrée. Octave avait fort bien compris son message et fut bien obligé d'expliquer à son épouse le sens de sa présence. Mais il refusa d'aller plus loin dans ses explications et se rembrunissait chaque fois que Loi se présentait. Il revécut avec clarté toute cette période sourdement conflictuelle avec Gabriel. Il vit se matérialiser l'espace qu'il avait toujours séparé de lui. Il devina comment s'étaient forgées deux destinées parallèles. Il comprit que Gabriel, tel qu'il était, ne lui aurait jamais contesté son primat de propriétaire. Mais Loi ne partait pas. Elle évoluait dans tout l'espace familial et descendait vers une autre maison toute proche où les parents très âgés maintenant vivaient. Le père, presque aveugle, devinait l'oiseau blanc devant lui. Il en était profondément touché, à la différence de son épouse qui considérait cet épisode comme anecdotique. Le père, qui avait entendu parler de ce que représentait Loi, méditait différemment son long passé. Il reconnut qu'il n'avait jamais présenté Gabriel à Octave comme un frère en puissance. Il comprit qu'une certaine routine et l'exigence du labeur l'avait empêché de donner toute leur place aux relations humaines. Il se sentit brusquement démuni et fautif. C'est avec sérénité qu'il vit s'éloigner sa propre ferme et toutes ses terres, alors qu'il avait jusqu'alors tenu son bien, la bride courte. Il eut pour la première fois une pensée d'équité envers ceux qu'il devait bien appeler ses deux fils. Ce soir-là, il ne vit pas Loi s'en aller. Octave chercha en vain sa blanche silhouette en contrebas de la maison. Le père et le fils, sous leur ridesse, sentirent se crisper leur cœur. Quelques semaines plus tard, à Espagnac-Valparadis, plusieurs villageois étaient descendus au bas du prieuré pour assister au spectacle d'une puissante crue du Célé. Le déchaînement de l'eau a toujours fasciné les hommes. L'onde, brune, charriait des branches et des troncs. Elle montait sans cesse et libérait des tourbillons à la sortie du pont. Soudainement, l'on vit apparaître sous l'une des arches l'oie, qui maintenait sa trajectoire sur l'eau rapide. Elle franchit la voûte claire à la vitesse d'un homme courant. Lorsqu'elle passa devant les villageois, elle battit des ailes en signe de triomphe et de joie. Elle s'envola, presque, mais reprit son assise sur l'eau, puis pivota plusieurs fois en signe de pleine liberté. Elle dessinait maintenant avec le courant un arc très pur et disparut d'un coup dans le vert profond des aulnes. On ne l'a plus jamais revue.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Chantal et on poursuivra la lecture toujours de ces contes la prochaine fois.
Bien sûr, au prochain conte si vous êtes bien sage.
Allez.
Au revoir Armand.
Au revoir.
Auditeur. Merci de votre écoute.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.